I'm turning this evening to the book of Exodus, the second book of the Bible, the book of Exodus, chapter 14 and verse 13.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, Exode, chapitre 14, verset 13. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. » Exode, chapitre 14, verset 13. Et le titre de notre méditation sera ce soir le suivant, « Les deux composants de la foi ». Notre approche vers Dieu est décrite en deux étapes, d'une manière simple. Tout d'abord, il y a la repentance. Nous devons nous repentir de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous sommes également. Nous ne présentons pas une liste devant Dieu, ce serait impossible, parce que nous l'avons offensé tant de manières. Mais cependant, nous devons faire de notre mieux pour nous repentir de tout notre cœur en reconnaissant ce que nous sommes et ce que nous avons fait contre lui. Et nous devons venir à lui avec honte et nous devons lui dire que nous avons besoin de son pardon, que sans son pardon, nous réalisons que nous sommes séparés de lui, nous sommes loin de lui et nous allons périr. La repentance, c'est là la première chose. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous venons à lui. Mais il y a également une deuxième chose. Et nous verrons ceci dans le passage que nous allons considérer dans un moment. C'est la foi. Non seulement la repentance, mais la foi. Vous devez croire en lui, en Christ en particulier, en ce qu'il a fait pour ôter le péché pour nous. Il est notre plus grand besoin. Il est tout pour nous. Nous ne pouvons pas trouver le Père sans l'œuvre du Fils. Vous savez qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le mystère le plus grand pour l'esprit humain, un seul Dieu, une seule essence divine, infinie, éternelle, et cependant trois personnes distinctes dans la Trinité, qui sont ensemble, qui sont parfaitement un en toutes choses. Oui, bien sûr, parce que Dieu est parfait, et chaque membre de la Trinité est également parfait, également éternel, ils sont un. Et cependant, il y a trois personnes différentes dans la Trinité. Dieu le Fils est venu du ciel sur cette terre, dans ce monde. Dieu incarné, Dieu et homme. Et il a pris notre humanité pour qu'il puisse nous représenter, pour qu'il puisse venir souffrir, mourir et porter la condamnation du péché pour tous ceux qui seront convertis, pour tous ceux qui seront sauvés. C'est là l'œuvre de Christ. Et sans lui, nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu. C'est impossible. Nous ne pouvons pas connaître la bénédiction de Dieu. Christ est tout pour nous. Tout d'abord, la repentance. Et deuxièmement, croire en lui, mettre notre confiance en lui et lui donner notre vie pour qu'il puisse régner sur notre vie. Jusqu'à ce qu'il nous prenne vers lui pour l'éternité. Ici, dans le livre de l'Exode, vous avez la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Et à présent, Pharaon, après sa résistance, après une grande œuvre de Dieu, Pharaon les a libérés. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, mais il les a laissés partir. Cependant, il a changé d'avis. Et à présent, il les poursuit. Et ainsi, 600 000 personnes, les enfants d'Israël, sont là et ils sont coincés. Devant eux, la mer Rouge, derrière les troupes des Égyptiens. Ils ne sont pas soldats. Il n'y a pas de solution. Ils ont peu d'éducation et ils sont mal nourris parce qu'ils travaillaient tant, ils étaient esclaves. À présent, ils sont là. Ils s'échappent d'Égypte et Pharaon les poursuit. Et leur situation est impossible. Et Moïse leur parle, et nous allons parler de ceci un peu au verset 13. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. » Pourquoi est-ce que nous lisons ceci? Parce que j'aimerais souligner quelque chose. Le salut a toujours été la même chose, la repentance et la foi dans la miséricorde de Dieu, en Christ, en ce qu'il a accompli. Et ici dans ce texte, 1450 ans avant que Christ ne vienne, c'est exactement la même image qui est là dans cet événement historique littéral. Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Et je vais expliquer ceci. Et au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Tenez-vous là, puis qu'ils marchent. Souvent les prédicateurs aiment prêcher sur ces textes. J'ai lu beaucoup de prédications du Grand Réveil au XVIIIe siècle. Les prédicateurs souvent revenaient à ce passage même. Il y a également une prédication bien connue qui était prêchée par Charles Spurgeon au XIXe siècle dans ce bâtiment et des gens de descendance royale et des gens importants et des gens du peuple étaient touchés par ce texte parce que c'est une image des deux aspects du salut, de la conversion. Quand nous venons à Dieu, et je prends ceci comme une illustration, voici les enfants d'Israël qui sont là dans cette situation impossible et ils ont besoin d'aide désespérément. Leur tendance à présent, c'est de vouloir retourner en Égypte. Si nous lisons au verset 11, ils dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte ?» Et ils haïssaient tant leur temps en Égypte, ils souffraient terriblement, ils étaient opprimés, esclaves, mais à présent, ils sont hors d'Égypte, ils sont dans une situation difficile et ils pensent qu'ils vont être détruits par Pharaon, par ses troupes. Et ils disent « Pourquoi est-ce que tu nous as fait ceci? Nous voulons retourner en Égypte, tout allait bien là-bas. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Oui, ils ont dit ceci auparavant, mais même eux ont changé d'avis. Ils voulaient être délivrés. Ils ont vu la délivrance. Ils ont pensé à la délivrance. Et à présent, ils sont amenés hors d'Égypte vers un pays promis. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs enfants? Oh, quel optimisme était exprimé, quel bonheur de pouvoir aller vers le pays promis, jusqu'au moment où les troupes d'Égypte les ont suivis. Et là, ils étaient vulnérables. Là, ils étaient terrifiés. Là, ils voulaient retourner en Égypte. Et c'est comme nous. Ceci reflète notre attitude. Parfois, nous qui sommes programmés par ce monde, nous sommes comme des gens opprimés. Nous faisons tout ce qu'on nous demande. Nous sommes soumis à toutes sortes de reprogrammations. Nous sommes tous programmés dans notre société pour être incroyants, pour être athées. Nous entendons constamment les critiques contre la religion, contre le christianisme en particulier, contre la Bible, toutes ces soi-disant contradictions, ces erreurs dans la Bible, ces choses sont ridiculisées et c'est un lavage de cerveau. Nous pensons qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a que nous, l'être humain, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons comme nous le voulons et le monde nous forme ainsi et nous sommes constamment bombardés de tentations pour gâcher notre vie, pour tomber dans ce péché et cet autre péché, tout ceci dans le monde du divertissement, dans les médias, nous sommes comme des esclaves, opprimés spirituellement et la société autour de nous détermine ce que nous devons croire, ce que sont nos espoirs, nos espérances. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est chrétien et qui vous parle du Seigneur. Vous entendez la prédication, vous réfléchissez profondément et vous lisez et vous dites « Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de la foi ?» Soudainement, vous commencez à comprendre la possibilité que, oh, si ce monde est créé, si cet univers est créé, il est possible d'avoir la communion avec le Dieu vivant et de marcher avec lui et que mes péchés soient pardonnés et d'être certain que Dieu va me recevoir un jour et qu'il va même œuvrer en moi à présent. Oh, ces choses seraient merveilleuses si seulement c'était le cas, comme les Israélites d'autrefois. Vous avez un aperçu de la possibilité de la délivrance, de venir à Dieu, d'être réconcilié avec lui. Mais comme les Israélites d'autrefois, comme si les Égyptiens, les troupes égyptiennes venaient derrière vous pour vous poursuivre, vous avez des doutes qui commencent à venir dans votre esprit. Oh, est-ce que je peux vraiment croire ? que Dieu est venu du ciel sur cette terre et a pris une personnalité humaine et a vécu une vie sur cette terre en Jésus-Christ, qu'il a souffert, qu'il est mort pour moi. Il y a plus de 2000 ans, il m'a vu moi dans ma condamnation spirituelle, dans mon athéisme, et il a souffert, il est mort pour mon péché. Si je suis l'un de ceux qui viennent à lui, est-ce que je peux croire ceci? Non, c'est trop beau pour être vrai. Et vous commencez à douter. Et ensuite vous vous dites, mais tous ceux que je connais au travail ou dans ma famille, ces gens disent que le christianisme est complètement absurde et ridicule. Et moi, je devrais prendre ces choses au sérieux. Non, je ne peux pas. Et la tentation vient. Et je retourne à ma vie ancienne, à la foule, et je retourne en Égypte. Et vous vous dites, et je sais qu'il y a des gens qui pensent ceci, il y a tant de gens qui m'ont dit ceci d'année en année, où j'aimerais venir à Dieu, j'aimerais recevoir Christ. Mais comment est-ce que je peux savoir que ceci peut se passer dans ma vie, que moi, je peux être converti, qu'il va écouter ma prière? Je me rappelle que l'une de mes sœurs, qui est décédée il y a quelques années, qui était plus âgée que moi, à la fin de sa vie, elle a réfléchi à ces choses et son cœur était vraiment touché. Mais ensuite, elle m'a dit, « Mais est-ce qu'il va m'accepter, moi ? Après tout, j'ai gâché toute ma vie, je l'ai rejeté toute ma vie. Et cette tentation vient, ces doutes viennent à l'esprit. Et un autre doute, est-ce que je veux vraiment abandonner ma vie présente, mon style de vie, toutes ces choses que j'aime, ces choses qui, je sais, sont des péchés, mais est-ce que je peux les abandonner? Est-ce que je peux vivre sans ces choses? Oh, ma vie sera complètement malheureuse en tant que chrétien. Et nous avons cette idée complètement insensée que de marcher avec Dieu, c'est une vie malheureuse, alors que c'est la vie la plus heureuse que vous pouvez décrire. Mais les gens disent, mais je fais un pas dans le vide, je ne peux pas faire ceci, moi je planifie tout ce que je fais. Je prépare tout, je sais exactement ce que je fais et nous nous disons, j'ai fait ceci durant toute ma vie, j'ai planifié ma carrière et chaque étape et comment j'éduque mes enfants. Je fais tout de manière bien organisée. Si je viens à Christ, que je cherche la conversion, une vie nouvelle, alors ce sera un pas dans le vide, dans l'inconnu. Je ne peux pas faire ceci et vous avez peur de quelque chose et vous vous dites que c'est l'inconnu. Et c'est là le problème de ces Égyptiens qui poursuivent les Israélites. Ils haïssaient cette vie d'esclave et ils disent à ce moment-là, nous voulons retourner en Égypte à nos maîtres. Certains disent, oh, j'aimerais chercher Dieu, mais plus tard, quand je serai plus âgé. Peut-être que je suis malade, que j'ai un grand problème, alors je me tournerai vers Dieu, plus tard. Et d'autres personnes disent, oui, mais si je deviens chrétien, alors je serai inutile parce que très rapidement je vais chuter et tomber et je vais abandonner le christianisme et je serai un échec. Toutes sortes de doutes qui viennent à l'esprit. Et nous nous disons, je dois retourner. À présent, vous comprenez la signification de ce texte que j'ai lu. Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là. Ils sont prêts à courir et retourner en Égypte, en arrière. Ne faites pas ceci, parce que s'ils étaient revenus en arrière en Égypte, ils auraient été détruits par les armées de Pharaon. C'est l'une des possibilités. Ou alors, Pharaon les aurait ramenés dans un esclavage bien pire qu'auparavant, s'ils ne les avaient pas tués, pour les condamner, pour les punir. C'était ainsi que ça fonctionnait à l'époque. Ils auraient dû payer le prix. Ça aurait été une folie que de retourner. Mais ils étaient vraiment tentés de retourner en Égypte. Chers amis, si vous avez été amenés à réfléchir, si Dieu a œuvré dans votre cœur pour que vous puissiez le chercher, le désirer, ne retournez pas en arrière, ne retournez pas à la vie ancienne. Parce que ceci, c'est bien pire. Et vous risquez le jugement de Dieu, non seulement en tant que pécheur, mais en tant que pécheur qui l'a rejeté, alors que vous aviez la connaissance, clairement. Ne retournez pas en arrière. Moïse leur dit que c'est une image du salut. Tenez-vous là. Et j'aimerais ajouter une autre signification. Vous devez vous tenir là et réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je recherche Dieu. Ce que je dois réaliser, c'est ceci. Je ne peux pas le trouver par moi-même. Ne laissez pas la pensée venir à votre esprit et vous dire « Je vais rechercher Dieu, je vais vivre une vie meilleure, je ferai du bien et je vais mériter sa faveur, je vais mériter mon passage dans le ciel. » Non, tenez-vous là, c'est essentiel que vous sachiez la réalité. Tenez-vous là, il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est là la première chose, arrêtez-vous. Arrêtez-vous d'essayer de lui plaire, arrêtez-vous d'essayer de mériter sa faveur, de mériter votre chemin vers le salut, vers le ciel. Pourquoi s'arrêter? Parce que c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ceci par vous-même. Nous ne pouvons pas être suffisamment justes devant Dieu. Nous sommes pécheurs par nature même et par choix également. Toute chose en nous, c'est dans notre instinct même, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas lui plaire. Nous pouvons faire certaines bonnes choses, mais ceci est tellement contrebalancé par tout notre péché. C'est impossible. Alors n'essayez pas de penser que vous pouvez mériter la faveur de Dieu, faire quelque chose par vous-même et contribuer. Tout d'abord, tenez-vous là et arrêtez-vous. Je suis dans une position impossible. Je ne peux pas vivre pour ce monde et pour le matérialisme et pour les choses superficielles qui prennent toute mon attention. Et il n'y a rien que je puisse faire pour avoir la faveur de Dieu par moi-même. Tenez-vous là. Seigneur, je reconnais que je suis inutile et je ne peux rien faire. À présent, vous pouvez marcher et avancer. Je dois me confier en Christ seul, en lui. Il a payé le prix pour mon pardon. Il l'a fait à la croix du calvaire. Je dois me confier en lui pour exercer la puissance qui fait de moi une nouvelle personne et qui m'amène dans la communion avec lui pour que je puisse le connaître. Ainsi, il y a la repentance tout d'abord, et ensuite il y a la foi en lui, pour croire en lui. Et le temps passe, et je voulais expliquer ceci simplement. La foi en Dieu, c'est avancer. Il n'y a pas de mérite en cela. L'exercice de la foi, c'est comme quelqu'un qui est volontaire dans l'armée. À l'époque, il y avait une cérémonie pour les soldats. C'était des volontaires. Ils devaient s'assembler dans une parade et un par un mettre un pied en avant qui montrait qu'ils ont fait un vœu d'allégeance à la royauté et à leur appel en tant que soldats. Qu'est-ce que ce pas en avant pouvait accomplir? Rien. Tout le monde peut faire un pas en avant. C'est la chose la plus facile à faire. Si vous n'avez pas de problème pour marcher, de faire un pas en avant. Mais ceci était d'une grande signification, c'était un vœu. Il s'engageait, alors que ce pas n'avait aucun mérite en soi. Et la foi est ainsi, c'est comme un pas en avant, alors que vous lui donnez votre vie. Ceci ne mérite rien, mais vous vous donnez devant l'autorité de Dieu, vous vous repentez de votre péché, vous lui demandez de vous recevoir, de vous transformer, et vous faites comme un pas en avant dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a différentes manières de décrire ceci. Ainsi, croire, c'est croire en Christ, qui il est, ce qu'il a fait, et de se donner à lui, et de lui faire confiance pour votre âme. Ceci me rappelle un événement de mon enfance quand j'avais 14-15 ans, ou plus jeune, et je campais sur l'île de Wight, avec 4 ou 5 amis. Nous avons marché et nous n'avions pas de carte. Nous ne connaissions pas vraiment le chemin, mais nous marchions le long de la plage, en bas de la falaise. Nous pensions que nous allions suivre la plage et là, nous allions revenir vers le campement. Et c'était pas très loin, c'était à peu près 10 kilomètres. Et quand on est arrivé à ce point culminant, la marée est arrivée, on pensait que c'était le bon moment. Quand on est arrivé, on a réalisé qu'on était au mauvais endroit. On n'avait pas réalisé que le long de la côte, on était coincé à cause de la marée et on ne pouvait pas retourner en arrière. On a dû grimper la falaise et finalement, après quelques heures, on a trouvé le chemin. On était complètement épuisés, on était jeunes. Il faisait nuit et il y avait encore 6-7 kilomètres. Et quelqu'un est venu avec une voiture, il s'est arrêté et il nous a dit « Oh, vous êtes perdus, oh, venez dans la voiture !» Il avait sa femme, ses enfants avec lui. Et c'était une petite camionnette, on a grimpé dedans, elle était vide, et le chauffeur a continué. Et vous pensez que d'être dans une camionnette avec des planches pendant des kilomètres, c'était pas très confortable, mais en tant que jeune, pour nous, c'était merveilleux, c'était la chose la plus confortable que d'être dans une camionnette. Parce que la camionnette faisait tout le travail pour nous, nous, on était confortablement installés, on n'avait plus besoin de marcher, et elle nous a ramenés au campement. Oh, c'était une expérience plutôt simple, et je pense que la plupart d'entre vous avaient eu une expérience équivalente, où vous pouvez simplement vous reposer, et quelque chose d'autre, et quelqu'un d'autre fait le travail pour vous, ou une machine. Et c'est la même chose, spirituellement, se confier en Christ. Vous vous êtes repenti de votre péché, vous croyez en lui à présent. Vous confiez toute votre vie et votre salut et votre éternité. Vous lui confiez tout. Vous ne pouvez rien mériter, mais vous vous confiez en lui, en son œuvre à la croix du calvaire. Vous confiez votre âme à Christ. C'est là la foi, la repentance et la foi. Vous croyez en lui dans votre esprit et vous lui confiez votre âme. Vous lui donnez votre vie, comprenez-vous? Il n'y a pas de mérite en cela. Si vous êtes secouru dans la mer et que le bateau de sauvetage arrive, que votre navire sombre et que vous êtes attrapé par quelqu'un qui vient vous sauver avec une bouée, vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous dise « Bravo, bravo !» Vous êtes entré d'une manière merveilleuse dans le bateau de sauvetage. Non, ceci est ridicule. Je suis simplement allé dans ce bateau de sauvetage ou dans les bras de quelqu'un qui était là pour me sauver. C'était aucun effort. Comme un avion qui décolle. Peut-être que c'est un gros avion. Ce n'est pas le pilote qui a la force de faire voler l'avion de 50 tonnes. Mais l'avion a ses propres moteurs, sa puissance. Tout ce qu'il a fait, c'est d'appuyer sur les bonnes manettes. Et de même, quand vous venez à Christ, vous recevez son salut avec joie et vous lui dites « Seigneur, je crois » et vous vous confiez en lui. Il y a tant de manières d'expliquer ceci. De nos jours, beaucoup d'entre vous, vous avez une voiture automatique. Qu'est-ce que vous faites? C'est la chose la plus facile au monde. Vous avez simplement cette pédale pour accélérer et elle avance. Il n'y a aucun mérite en cela. Peut-être vous avez un certain mérite en utilisant le volant, mais pas en appuyant sur l'accélérateur. La voiture fait tout. Et de même, confiez-vous en Christ. Jésus-Christ, le Seigneur. Il vous donnera la vie nouvelle et croyez en ses promesses, les promesses de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est votre besoin de Dieu, votre besoin du pardon. Vous êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai le repos. Quelle promesse que celle-ci, vous vous confiez en lui alors que vous venez à lui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Ainsi vous venez à lui, vous croyez dans ses promesses, et vous vous consacrez à lui. Vous vous confiez en lui de tout votre cœur. Confiez-vous en Christ, chers amis, ces deux choses, se repentir, lui demander son salut, et croire, se confier en Christ. Et alors, sans aucun doute, vous allez le trouver, et vous saurez qu'il a transformé votre cœur, vous allez réaliser que vous avez une nouvelle compréhension, vous allez réaliser que l'amour a été déversé dans votre cœur, et vous allez l'aimer, le remercier, et vous saurez que vous êtes son enfant, et vous allez le prier librement. Les doutes, les craintes, peut-être, vont passer à l'esprit, mais vous allez simplement tourner vos regards vers lui et vous vous direz, « Regardez ce qu'il a fait pour moi. Auparavant, j'aimais mon péché. À présent, je hais le péché et j'aime Christ, je veux lui obéir. » Vous allez ressentir ce changement. Et ce que vous avez fait, c'est que vous êtes repenti et vous vous êtes confié en lui, vous avez cru en lui, vous avez mis votre foi en lui. C'est là ce que vous devez faire, et si vous êtes sincère et de tout votre cœur, alors vous saurez qu'il vous a transformé, et c'est Christ qui le fera en vous. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous chacun, que personne ne repart de cet endroit en se donnant à ce monde vain qui passe, mais œuvre dans chaque cœur. Amène-nous à toi pour que nous puissions être sauvés et sûrs pour l'éternité. Nous te le demandons dans le nom de notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire. Amen.